Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre micro-rebelle hebdo, donc chaque semaine à 18h sur micro-rebelle.fr et en rediffusion chez nos amis de la FRANF, hein, la Fédération des radios associatives du nord de la France, notamment Radio PFM, hein, 99.9, qui nous rediffuse le même jour, vendredi à 20h, le lendemain le samedi à 7h30, et le surlendemain le dimanche à 14h, et chez nos amis également hein, de Radio Plus 104.3 à Douvrin, qui rediffuse cette émission le mardi à midi. Alors aujourd'hui en studio, nous sommes en effectif réduit. Hein. C'est le premier jour des vacances scolaires, les vacances dites de Pâques, dites de printemps. Nos jeunes ont donc des activités diverses et variées. Olivier est passé en studio cet après-midi hein, pour enregistrer sa chronique, hein, la chronique à deux coups que nous écouterons tout à l'heure. Et donc je suis avec Luc. Bonjour Luc.
Salut Lucien, bonsoir à toutes et à tous.
Et donc, tous les deux, bon, on va assurer cette édition de ce micro-rebelle hebdo.
On devrait y arriver.
Je pense qu'on va faire ce qu'il faut, en tout cas. Donc, au programme, comme chaque vendredi, hein, l'agenda, la revue de presse, de la musique libre, des annonces, et puis un sujet hein, dont on vous parlera tout à l'heure. Luc, on démarre par l'agenda ?
Effectivement, on démarre par l'agenda et on précise tout de suite que les dates et les informations qu'on va vous donner dans l'agenda sont disponibles sur notre site. Dans le menu, il suffit d'aller sur le blog des adhérents de Micro Rebelle. On commence l'agenda vendredi 5 et samedi 6 avril, c'est Bobine Rebelle, c'est l'événement au LAG, 7e édition de ce festival documentaire d'auteurs social et politique. Toujours en présence des réalisatrices et réalisateurs de chaque film. C'est donc ce week-end avec une soirée d'ouverture le vendredi 5 avril et toute la journée le samedi 6. Cette journée sera suivie, elle s'achèvera par le repas Babine Rebelle. Les premières infos et toute la programmation sont en ligne et en téléchargement sur le site du LAG. On précise également que Micro Rebelle a interviewé les réalisatrices et réalisateurs. N'hésitez pas à aller écouter les podcasts pour vous faire un avis sur les films que vous pourrez y voir. On précise également, ou on s'excuse auprès des auditrices et auditeurs qui nous écouteront en rediffusion, que ces informations ne seront donc plus valables. Dimanche 7 avril, Mon corps, c'est mon corps. Dans le cadre du festival Autour de l'enfance, proposé par les rencontres féministes en partenariat avec Chez Violette, projection du film documentaire « Mon corps, c'est mon corps » de Moira Simpson. Ce documentaire aborde le sujet du corps chez les enfants, du toucher, des violences corporelles et sexuelles. Une réflexion pour les petits et petites comme pour les grands et grandes sur comment poser ses limites et écouter ses ressentis. La projection sera suivie d'un débat dimanche 7 avril dès 14h30 au cinéma L'Univers à Lille Moulin, entrée libre. 14h30, c'est pas l'heure du débat, c'est l'heure de la projection. Mardi 9 avril, ce sera les vacances. Il n'y a pas beaucoup d'événements que nous pouvons présenter dans le cadre de cet agenda, mais il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit d'un événement micro-rebelle. Ce mardi 9 avril, micro-rebelle pose ses micros et son studio mobile au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, pour une émission exceptionnelle avec Bernadette Gruson et des spectatrices qui ont assisté à son spectacle « Quelque chose ». Rappelons que ce spectacle de Bernadette Gruson est un seul en scène sur le thème de la sexualité, l'amour, les luttes pour les droits des femmes, etc. Micro Rebelle était notamment présent lors de la représentation de ce spectacle le 8 mars à Méricourt. Ce mardi, l'enregistrement de cette émission est public. N'hésitez donc pas à vous rendre au LAG pour y assister et si vous le souhaitez, y participer à l'occasion du temps d'échange prévu entre Bernadette Gruson, les spectatrices et le public. Dans ce cas, prévoyez bien d'arriver avant 19h30. L'accueil est prévu à partir de 19h de façon à ne pas arriver après le début de l'enregistrement. Si vous ne pouvez pas assister à cet enregistrement, il vous est possible de l'écouter en direct sur microrebelle.fr. Cette émission en direct et hors les murs s'inscrit dans le cadre de nos émissions Chapeau Débat. Elle est réalisée en partenariat avec le LAG et le Planning Familial 62. Enfin, mercredi 10 avril, initiation guitare plus chorale. Ça se passe au LAG à 18h30. C'est une initiation à la guitare d'accompagnement pour les chansons de la chorale. À 19h, ce sera la chorale du LAG. C'est tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. Chantons ensemble en partageant des chansons de lutte. Une chanson, un poème, valent plus que 1000 discours pour redonner espoir et goût à la lutte. Voilà, toutes ces infos sur le blog des adhérents de Micro Rebelle que vous trouverez dans le menu de notre page.
Très bien, bien, merci Luc. On va sans tarder enchaîner sur la revue de presse. La revue de presse, c'est l'occasion de faire un petit tour de l'actualité. L'actualité locale, bien sûr, hein, essentiellement, au travers de la presse locale. Peut-être aussi évoquer l'actualité nationale et internationale. Alors, l'actualité internationale, peut-être une brève vue dans le magazine Alternative Libertaire qui concerne ce qui se passe en ce moment en Algérie. Hein. Vous savez que c'est un mouvement qui est tout à fait intéressant à suivre, hein, mouvement populaire réel. Alors donc, la démission de Bouteflika ne calme pas les aspirations du peuple algérien. Le magazine Alternative Libertaire indique « D'Alger à Béjaïa, la protestation ne retombe pas. La question du cinquième mandat de Bouteflika est clairement dépassée. Le mot d'ordre « système dégage » ouvre la voie à la question sociale. Le mouvement populaire en cours ouvre une nouvelle page de l'histoire en Algérie, non seulement en raison de son ampleur, mais surtout parce qu'il a déjà fait reculer un gouvernement dont l'arrogance antidémocratique n'a d'égal que la rigueur antisociale. Si des commentateurs doutaient il y a quelques jours encore de l'opportunité de qualifier de révolution la séquence historique qui se déroule en Algérie, cette réserve n'a désormais plus cours. Non seulement parce que la population a exprimé massivement sa volonté de rupture avec le régime, mais aussi en raison des fractures qui apparaissent au grand jour du côté du bloc dirigeant. Dans la situation ouverte par le surgissement populaire du 22 février, tout reste donc possible malgré les appréhensions héritées de l'histoire récente du pays et de la fragmentation des forces révolutionnaires qui cherchent à surmonter de nombreux obstacles. Outre la question démocratique, à savoir le refus d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika à l'origine de la contestation, la question sociale demeure toujours aussi sensible malgré la volonté des néolibéraux de la camoufler. Il peut cependant y avoir un piège à éviter, le piège de la mise en œuvre d'un gouvernement de transition avec l'élection d'une assemblée constituante. Pour l'instant, les appels à l'auto-organisation de tous et toutes les exploités à travers la mise sur pied de comités populaires peut permettre d'éviter ce piège. Alors, un autre élément d'actualité qui est tout à fait récent, donc c'est paru dans plusieurs journaux, je le cite très très rapidement, ça concerne la loi anti-casseurs. Hein. On a déjà eu l'occasion d'en parler à Micro-Rebelle, y compris d'interroger la Ligue des droits de l'homme à ce sujet. Donc, l'article le plus critiqué de cette loi anti-casseurs est censuré par le Conseil constitutionnel. C'est la bonne nouvelle du moment, hein. La censure de l'article 3, qui aurait permis au préfet d'interdire à des individus représentant, je cite, « une menace d'une particulière gravité », fin de citation, de manifester pendant un mois. C'est un vrai revers pour Emmanuel Macron, qui avait lui-même saisi le Conseil constitutionnel, et c'est une réelle satisfaction pour les défenseurs du droit de manifester. Bien, on va maintenant s'intéresser à la revue de presse purement, plus spécifiquement locale, pardon. Et on va commencer par la mise en perspective de deux articles, l'un de l'Avenir de l'Artois, l'autre de Liberté Hebdo. L'Avenir de l'Artois titre « Polonia, un week-end battant au rythme de la Pologne ». Il s'agit de fêter le centenaire des Polonais, de l'arrivée des Polonais, pardon, dans le bassin minier, au travers des différentes festivités organisées à Mazingarbe, extrait de l'Avenir de l'Artois. 100 ans que les Polonais et descendants de Polonais nous font découvrir cette culture folklorique et très variée. Ainsi, les 6 et 7 avril vibreront au son de la musique, des traditions et de la nourriture typique de la Pologne. Et certains mordus de cette culture n'hésitent pas à faire des kilomètres pour rejoindre ceux qui portent la même passion. Et le journal donne notamment la parole à Patrick et Nadine Malevics, qui viennent de Saint-Paul-sur-Ternoise et qui animent un groupe de chant et de danse. Nous citons toujours l'Avenir de l'Artois. Par tradition et coutume, la chanteuse passe par toutes les facettes de ce que représente la Pologne. La Pologne, pour moi, c'est la gastronomie, la littérature, la langue aussi, continue la Saint-Pauloise. Le couple Saint-Paulois participe souvent à ce genre d'événements polonais. Et heureusement qu'il y en a, ils permettent de sauver la tradition, sourit Nadine Malevics. Le week-end musical et folklorique de Mazingarbe permettra sûrement aux Malevics, comme aux autres participants et visiteurs, de retrouver les plaisirs d'échanger en polonais ces traditions qui leur rappellent des souvenirs du temps passé. Alors toujours concernant l'immigration polonaise, Liberté Hebdo s'intéresse en particulier au mineur Stefan Slaby, arrivé en France en 1923 et dont on perd la trace en 1951. Parmi les hypothèses, il pourrait avoir été expulsé par l'État français du fait de ses activités au sein du Parti communiste français. L'association Les Amis d'Edvard Girecht lance un appel à témoins pour en savoir davantage sur Stefan Slaby. L'article, pour terminer, donne la parole aux amis d'Edvard Girecht et ça nous a semblé intéressant de reproduire cette citation à l'antenne après avoir évoqué les initiatives Polonia relatées par l'Avenir de l'Artois. Nous citons donc Liberté Hebdo. La présence polonaise dans le bassin minier est trop souvent circonscrite à sa seule dimension culturelle, folklorique ou religieuse. Nous souhaitons faire toute la lumière sur l'aspect social, les grèves, la répression impitoyable qui s'abattait sur les syndicalistes. Des faits trop souvent ignorés dans les discours officiels qui placent, à tort, les Polonais sur un piédestal pour leur capacité d'assimilation. Un mythe que nous nous efforçons de déconstruire, assurent les amis d'Edvard Girecht. On va maintenant en reparler du BHNS, le bus à haut niveau de service, une petite semaine après sa mise en service le 1er avril. Quelques extraits de La Voix du Nord. Le nouveau réseau de bus Tadao s'attire les foudres de certains usagers. Temps de trajet rallongé, arrêts supprimés, correspondances supplémentaires, de nombreux habitués des bus peinent à se familiariser avec leurs nouveaux itinéraires et se plaignent d'un manque d'informations. Quelques exemples relatés par le journal. Pour Claudine et Christian, retraités de Libercourt, rallier Hénin est un chemin de croix. On est parti à 9h, on est arrivé à 10h30 en changeant deux fois. Avant, ça nous prenait trois quarts d'heure avec le 29, qui après nous emmenait à Auchan direct. Maintenant, faut prendre trois bus jusqu'à Auchan, c'est pas possible, ça va nous faire 5h dedans. François, retraité et invalide, est, ouvrez les guillemets, un peu paumé. Je suis venu voir les horaires, dit-il, et il reste perplexe. Avant, j'allais jusqu'à Carnot, et c'était direct jusqu'au Leclerc de Courcelles. Maintenant, à Mairie-Hénin, je dois prendre le 19, descendre à Wakefield et prendre le 23 jusqu'à Leclerc. Il n'y a plus de correspondance. Les élèves se sentent aussi pénalisés. Grégory vient de Montigny-en-Goële tous les jours au lycée Senet. J'en avais pour 30 minutes. Maintenant, j'en ai pour une heure par la 27. Véronique d'Hénin-Beaumont s'est installée avec sa famille à Loison-sous-Lens. Mais sa fille est restée au collège Rabelais, à Hénin-Beaumont. Et la mère de famille n'est pas du tout contente du nouveau réseau. Sa fille prenait la ligne 13 chaque matin pour un peu moins d'une heure de bus. Aujourd'hui, plus de lignes directes, ou alors elle doit prendre deux, voire trois correspondances, avec 1h20 de trajet, voire plus. Pour le retour, elle n'a pas de correspondance, ou alors elle doit attendre 18h. En terminant à 15h30, c'est quand même dommage. Autre cas concret, toujours dans cet article de La Voix du Nord, celui de Radica, de Courcelles-lès-Lens. Sa fille prenait le train à Dourges pour rejoindre son lycée à Lille. Le bus direct a été supprimé. Maintenant, il faut qu'elle aille à Hénin-Beaumont pour retourner en bus à la gare de Dourges. Ça rallonge beaucoup trop son trajet. Conséquence, Radica conduit et ramène sa fille en voiture à Lille. Un comble quand on sait que le nouveau réseau était censé stimuler les transports en commun. Quand ça ne sera pas possible, elle dormira chez sa grand-mère. Je suis dégoûté. Je ne comprends pas pourquoi ces changements sont faits en pleine année scolaire. Ils nous mettent devant le fait accompli. Voilà, donc ça c'était La Voix du Nord. Alors nous avons personnellement vu, près de Micro-Rebelle, à Liévin, des voyageurs et des voyageuses qui étaient dans le même cas de figure. Par exemple, des travailleurs et des travailleuses le matin qui venaient de Ablain, Souchez, Angres, et qui avaient un bus direct, matin et soir, pour la gare de Lens, et qui maintenant doivent changer à Liévin. Nous avons également constaté que les nouveaux bus, les nouveaux doubles bus, n'étaient pas pris d'assaut par les voyageurs, et que, tout au moins pour l'instant, des bus simples, d'une longueur habituelle, auraient pu largement convenir. On termine concernant le BHNS par un article de l'Avenir de l'Artois sur un sujet qui nous est cher, la gratuité des bus. Ça se passe à Salomine, extrait. Salomine exige la gratuité du BHNS. Lors du lancement du fameux BHNS, les élus majoritaires salominois, comme les élus communistes de la CAL, ont fait lundi 1er avril une action symbolique. Tôt le matin, nous avons bâché les DAT. Les DAT, ce sont les distributeurs automatiques de tickets. Nous avons bâché les DAT sur toutes les bornes, y compris celle de Salomine. Une affiche est venue compléter cette action coup de poing, mentionnant, ouvrez les guillemets, « Gratuit 15 jours, gratuit toujours ». Quelques nouvelles maintenant concernant le mouvement des Gilets jaunes. C'est dans La Voix du Nord. Gilets jaunes, une assemblée populaire annoncée pour l'acte 21. Pour l'acte 21, samedi 6 avril, le mouvement des Gilets jaunes a annoncé qu'il prévoyait, ouvrez les guillemets, d'occuper la place de la République à Lille à l'issue du cortège habituel. Il partira à 14h, le rendez-vous est fixé dès 12h30. Ce rassemblement, annoncé comme une grande assemblée populaire, est déclaré jusqu'à 21h. La semaine précédente, un millier de manifestants avaient participé à la manifestation lilloise qui, malgré la présence de Black Bloc, s'était déroulée dans une ambiance apparemment plus sereine que lors de l'acte 19. Cette fois-là, le double de manifestants était mobilisé et le cortège avait semé incidents et dégradations sur son passage. On va terminer cette revue de presse par une brève relevée dans le journal national Lutte Ouvrière à propos de l'usine d'Urisotti de Salomine. Le journal évoque la réalité de cette entreprise et livre quelques éléments d'analyse. Nous citons donc Lutte Ouvrière. D'Urisotti Liberty Salomine, investissement ou pillage ? Le carrossier industriel d'Urisotti, qui compte encore près de 250 salariés à Salomine, près de Lens, transforme des véhicules, modèles sport, ambulances, véhicules de police. Il y a presque 10 ans, la famille actionnaire de d'Urisotti a endetté son entreprise en lui faisant racheter pour plus de 5 millions d'euros des actions qu'elle possédait. La crise aidant, les commandes ont baissé, l'entreprise a été mise en redressement judiciaire avec 2 vagues de licenciements. 200 travailleurs au total. Les conditions de travail se sont dégradées et les cadences sont devenues insupportables. Beaucoup y ont laissé leur santé bien avant l'âge de la retraite. Depuis plusieurs années, les fournisseurs étaient payés de plus en plus en retard et dernièrement, l'entreprise a été mise en liquidation avec en parallèle un plan de reprise par Liberty. Liberty n'aura payé que quelques dizaines de milliers d'euros. Il a déjà récupéré la facturation du travail effectué sur des dizaines de véhicules. Le tribunal n'a exigé aucun engagement pour l'avenir. Il n'a pas non plus fait payer les dettes, estimées à 20 millions, ni à l'ancien patron, qui garde la totalité de sa fortune, ni aux repreneurs. Tant pis si des fournisseurs ne s'en relèvent pas. Liberty est un grand groupe qui vient de racheter Aluminium Dunkerque, essentiellement avec un emprunt qu'il compte bien rembourser d'ici 4 ans par l'exploitation de cette usine et de ses salariés. Aux dernières nouvelles, les anciens patrons de d'Urisotti sont toujours employés par l'entreprise. Ils continuent à toucher de généreux revenus mensuels, équivalent chacun à 1 an de salaire pour un travailleur. Comment ne pas ressentir la colère quand les travailleurs de cette entreprise, qui se sont pourtant défendus à de nombreuses reprises, voient avec quelle facilité les patrons pompent l'argent, licencient, tout cela avec la complicité de la justice et de l'État.
Pour la musique libre aujourd'hui, on va faire un peu une spéciale hip-hop, rap américain. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'est penché. On va commencer par un rappeur que personnellement j'apprécie pas mal. Il fait des sons assez jazz, cool, les textes sont un peu philosophiques même. Il s'appelle Milo, vous pouvez écouter ça sur Bandcamp, c'est libre de droit, c'est suffisamment rare dans le rap ou le hip-hop pour le préciser quand même. On écoute Zen Scientist en featuring avec Mika 9.
Well, there seem to be some misconceptions. I don't think that you understand. Seemingly a misconception. It's him who wrote the Tao of the pessimist as thespians maneuver through the now and its messiness. I've grown weary of their kindnesses, the adult Zen scientist with the inwardly infinite capacity for mindfulness. This is a kite shield to protect you from complacency. I stand adjacent to the vagrancy, no vacancy. Out in the street with poems and guns, the argo of the ergonauts. It's enough to send kisses down your arm like Gomez. How he dazzled with the baffle gab. Sisyphus surmounts the aggro crag. Cantillating grace, and they can't keep my pace.
And they can't keep my pace.
The soul is fly.
Like always, and the recess is receding. This lawn chair creaks when I'm leaning. The microcosm between velour and velvet. When the ache becomes a Kaiser helmet. CC me when you supersize your intentions. I'll be in the frozen food aisle until then. It's a lead lid on this pillbox. I plan on living until the bills stop. Budding curmudgeon with cudgel, bludgeon the kerfuffle of the welterweight. That's understated. Stay indoors. I stay indoors. I stay indoors. We broke, so it's lawn chairs, long stairs. Gloomy, never forlorn. Learn the old forms. Honor the old gods via iPod. Don't stop the body rock. I have decided in good faith to let my soul fly. Mr. Yuck, let his soul fly. Ken Sarawiwa lets his soul fly. Mr. Kenford has been known to let his soul fly. I know DJ Syndicate lets his soul fly. The cleaners are so fly. Guantanamo Bosch lets his soul fly. Jacob Bluefinger, well, I bet he lets his soul fly. Dugan Nash been known to let his soul fly. Black Orpheus, I'm sure he lets his soul fly. That boy Scipio, he lets his soul fly. Of course, the wise owl himself, he lets his soul fly. Who was once called Flo's a Million, yes, he's so fly.
Depuis début mars, la radio associative roubaisienne Pastel FM est empêchée d'émettre suite à un acte de sabotage de son matériel d'émission. Pour défendre la liberté d'expression, la solidarité s'organise. Une cagnotte solidarité Pastel FM est mise en place. Et puis un gala de soutien aura lieu le vendredi 19 avril à 21h, salle Ouattremet à Roubaix. Retrouvez toutes les infos sur le site www.pastelfm.com. Radio associative solidaire avec la FRANF, la Fédération des radios associatives du nord de la France, pour que la voix de Pastel FM puisse de nouveau se faire entendre le plus tôt possible.
C'était un petit jingle fait par Radio PFM. Vous êtes quand même bien à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo. Quelques explications tout de même. Effectivement, Pastel FM, c'est une radio associative roubaisienne qui a subi un acte de sabotage dont on ne connaît pas encore les coupables, ce qu'on a pu entendre. Donc leur émetteur a été détruit. Un émetteur, ça coûte très cher. Le coût du préjudice est estimé à 20 000 euros. Donc effectivement, Micro Rebelle s'associe à ce mouvement de solidarité envers une radio qui permet l'expression des personnes localement sur une base très démocratique. Et il y a bien une cagnotte de solidarité qui est mise en place et un gala de soutien. Si vous voulez des informations, renseignez-vous sur le site de Pastel FM, www.pastelfm.com. Lucien l'a dit tout à l'heure, Olivier n'est pas là dans les studios. Malgré tout, il nous a enregistré, il est venu tout à l'heure nous enregistrer son coup de gueule.
Oui, ce soir, c'est un coup de gueule sur la pollution aux particules fines. La pollution atmosphérique tue 5,5 millions de personnes par an dans le monde, selon les chiffres 2016 de la Banque mondiale. Elle est devenue le quatrième facteur de décès prématuré sur Terre. En Europe, selon les données collectées par l'Agence européenne pour l'environnement dans son rapport de 2018, les concentrations de particules fines ont été responsables d'environ 422 000 décès prématurés dans l'ensemble des 41 pays européens, dont 391 000 dans les 28 États membres de l'Union européenne. Notre région n'est forcément pas épargnée et les chiffres cognent. Dans un récent article de La Voix du Nord, chaque année, dans les Hauts-de-France, ce sont 6 500 morts prématurées à cause de la pollution de l'air, 18 décès par jour. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 4 600 décès prématurés, 13 par jour. Pourtant, les causes sont bien connues. Elles sont liées essentiellement à l'activité de l'homme, par les industries, le trafic routier, les incinérateurs de déchets, le chauffage individuel et les centrales électriques aux combustibles fossiles. Selon l'Agence européenne de l'environnement, l'année 2017 reste marquée par des dépassements des normes européennes. Il concerne 12 agglomérations, dont Paris, Lille, Lyon et Marseille, pour le dioxyde d'azote, gaz principalement émis par les moteurs diesel, et 27 agglomérations pour l'ozone. Des dépassements qui valent à la France d'être envoyés devant la Cour de justice de l'Union européenne. La semaine dernière, il y a exactement 8 jours, les seuils de pollution ont été dépassés dans notre région. Des mesures de restriction de vitesse obligatoire n'ont été prises que vendredi et ce lundi, pas le week-end. Le préfet n'a pas décidé d'imposer la circulation différenciée qui interdit aux véhicules les plus polluants de ne pas circuler. Alors pourquoi si peu de mesures face à ces épisodes de pollution de l'air? Les écologistes, les citoyens s'insurgent et la préfecture botte en touche. À Micro Rebelle, nous reviendrons bientôt sur ce scandale des particules fines.
Yo, rap a little. Driver, go for it. Make a hole and behold my whole mind. For the black holes hold the wars the whole nine. A homebody who will scale with all the old biscuits. For gross sales hold the mail cause I'm holistic. My small talk is a folk tale of old mystics. It's not the value but the smoke trail of old premise. I found footing on my coattails and show business. For every hole's a hotel with ghosts in it. I ensure the expulsion of astral goo and causing convulsions as addictive as tobacco chew. My lips on the volcano's rim. I can blink in the sky and have a rainbow dimmed by sharing a notion. I pinch a shaft of light from every hole. I'm a messy troll who spat on tykes. Yeah, every hole is lined with the gold bands. And you must be a coke can and I must be a whole man. The barbarian plot is where you all grow corn. I'm a dust mite whose blood type is low born. But now my lips from which every oath sworn. And my personal warmth is set to snowstorm. But now my lips from which every oath sworn. Yeah. 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 Yeah.
heard Kendrick Lamar's Batman and Miley Cyrus sliced to treat a microphone stand as if it's a large black man. They feed Tyson chickens, liquid Viagra. Unemployed college grads would gentrify Africa. Hold up.
There's breaking news about Lamar Odom coming through my 2400 baud modem.
Thank you for letting me be myself again. Not European, I don't dig shows about elfin men. Revenge of the nerd rap tournaments. Join us as we drink on cheap beer and have to belch to win. Ice caps will melt your friends and my friends, even the ones that eat raw food and do thigh bends. Might as well sucker punch Mike Tyson, be a hood Heisenberg rolling blunts full of ricin. In Islamabad humming Hava Nagila on a loudspeaker, quoting from Bhagavad Gita's rappers, calling out names for other rappers to focus on. It's like an episode of Pokemon. Big Sean, I choose you. I got a message from a lot of folks. You got two Twitter accounts, nigga, I won't follow up. Nigga, I won't follow up.
Set fire to the bandstand with propane. Let my spirit rise, come and ride on the soul train. This is soul flame, wash it with a cold drink and a fishbowl, find remnants of your whole team. Yeah, stimulated by the cold dreams. Black streets where they pack heat and whole beef. Throw C's off the boat, make these hoes scream. Always knew I could be a product of the dope G. If I didn't know the history, I wouldn't repeat it. Like the jam of the week, rap about big tires on my nose G. You rap like A minor, chilling by your rinse bed with the night light on. Terrified by the dark, I'm a black hole in a light bulb and an elephant in the press room. You a Yang, no Gin in a cesspool, etched in the memory of teenage girls who act tribal, monkey see, monkey do, off that white dust on that white bus to the zoo. No visitor, more like a resident. Welcome to the show, you have been selected to feel that hellfire, hellfire, black jungle. All you rappers just plummet.
Goodbye.
On avait promis une spéciale rap pour la musique libre. De ce micro rebelle hebdo, eh bien, on s'y tient. Elephant in the Press Room avec les rappeurs Buzz Driver, Open Mike Eagle et Jeremiah J. C'est quand même du rap alternatif parce que vous écoutez Micro Rebelle. J'en profite pour passer un message parce que ça me vient comme ça. Parce que je trouve qu'on dans les cortèges syndicaux des manifestations, on entend toujours les mêmes musiques. Alors bon, c'est pas pour critiquer les artistes en eux-mêmes, mais à force, on lâche rien, ça devient un peu lourd. Donc voilà, s'ils cherchent un DJ pour animer les manifestations, je propose mes services gracieusement.
À mon avis, ils vont y gagner. Hein.
Je pense que musicalement, ils peuvent y gagner. Alors, ce sera peut-être un peu moins, un peu moins coup de poing comme chanson, quoi, un peu moins frontalement engagé, mais...
Il y a quand même du contenu. Hein.
Il y a quand même du contenu, exactement. Pour la suite de cet hebdo, le sujet, c'est la réforme de l'assurance chômage. Donc on va traiter ce sujet en deux temps. Et tout d'abord, je vais poursuivre en quelque sorte la revue de presse avec un article. Bataille de chiffres autour de l'assurance chômage. C'est un article de Sandrine Foulon dans Alternatives économiques qui date du 4 avril 2019 autour d'une question polémique soulevée par la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Un chômeur sur cinq gagne-t-il vraiment plus au chômage qu'en travaillant? Une question qui donne lieu à une étonnante passe d'armes statistique entre Pôle emploi et l'UNEDIC. L'article donne ici un éclairage sur la vieille rengaine, ces chômeurs qui gagnent plus en restant chez eux. Ritournelle un peu rance quand on sait que des offres d'emploi au pôle du même nom, il n'y en a pas bézef, et que les chômeurs sont, pour un tas de raisons que nous n'évoquerons pas ici, des privés d'emploi souvent précaires que l'on culpabilise pour éviter de rappeler que le chômage de masse est une composante de l'économie capitaliste. C'est donc un vieux refrain démodé qu'on fredonne dans les médias de domination pour donner du piquant à un feuilleton médiatique qui flatte les penchants droitistes. Alors qu'en est-il des chiffres? Le chômage paie-t-il plus que le travail? C'est là le cœur de l'article. Selon Muriel Pénicaud, cité dans celui-ci, travailler pendant un an à mi-temps en CDI payé au SMIC, soit 740 euros par mois, donne droit à une allocation chômage de 480 euros par mois également. En revanche, le salarié qui réalise ce même volume d'heures, mais en alternant contrat court de 15 jours et période de chômage de 15 jours, touchera une allocation deux fois plus élevée, à savoir 960 euros. Il y a là, selon elle, un problème d'incitation et d'équité. Le coupable serait le salaire journalier de référence, SJR, qui sert à calculer sur la base de jours travaillés une indemnité chômage mensuelle. Selon l'auteur de l'article, le problème est que le SJR SJR, est une règle qui favorise l'émiettement des périodes travaillées. Celui ou celle qui cumule plusieurs contrats de quelques jours dans le mois aura ainsi une indemnité plus élevée que le salarié qui effectue le même volume d'heures mais avec un seul CDD à mi-temps. Cependant, cette indemnité deux fois plus élevée, pour reprendre l'exemple de la ministre, sera versée sur une durée deux fois plus courte. A l'inverse, l'indemnité deux fois moins forte sera étalée sur une durée deux fois plus longue. Quoi qu'il arrive donc, ces deux personnes toucheront in fine le même montant d'indemnité. C'est aussi une vue de l'esprit, je cite, « On se focalise sur des montants à un instant T sans prendre en compte ni le temps qu'il faut pour les obtenir, ni la durée pendant laquelle on peut les consommer. Le fait de travailler un mois à 740 € ne donne pas automatiquement droit à une allocation de 960 €. Pour pouvoir toucher cette somme, il faut avoir travaillé plusieurs mois à 740 €, en l'occurrence au moins 8 mois à mi-temps. La durée minimale requise pour ouvrir des droits est en effet de 4 mois à temps plein, 88 jours pendant les 28 derniers mois. Et même si notre demandeur d'emploi perçoit pendant 4 mois la somme de 960 € d'allocation, il gagnera toujours moins en indemnité, 960 € × 4, qu'en ayant travaillé 740 € × 8. Il est donc faux de généraliser et de dire que le chômage paie plus que le travail, mais entretenir la confusion sert à faire passer la pilule de la réforme de l'assurance chômage dont le principal motif, comme pour la plupart des réformes en cours, est l'austérité budgétaire. Malgré la dénégation des partenaires sociaux, Muriel Pénicaud a remis le couvert en annonçant en février qu'un chômeur sur 5 gagnerait plus au chômage qu'en travaillant. La source vient des services de Pôle emploi. Selon l'organisme, 20% des chômeurs touchent une allocation supérieure à ce qu'elles gagnaient en moyenne quand elles travaillaient. Du côté de l'UNEDIC, association qui gère l'assurance chômage, on joue une autre musique, mais surtout on ne comprend pas les modalités de calcul du ministère du Travail. Pour l'UNEDIC, il n'y aurait que 4% de chômeurs qui toucheraient une allocation supérieure au salaire perçu pendant les 12 mois précédents, l'ouverture de droit. Après une contre-attaque de Pôle emploi en mars, pour justifier ses méthodes de calcul, il faut bien avouer que le quidam s'y perd. D'ailleurs, si les méthodes de calcul vous intéressent, je renvoie ici vers l'article. Notons qu'une autre information de l'UNEDIC remet en cause les déclarations de Muriel Pénicaud sur le fait que l'assurance chômage n'incite pas à reprendre un travail. Même les deux tiers des 4% des chômeurs qui perçoivent une allocation supérieure à 290 € à leur ancien salaire, 220 € reprennent un travail dans les 3 mois qui suivent leur indemnisation. Sandrine Foulon, dans cet article d'Alternative économique, conclut par quelques points d'analyse. Il n'est pas réellement possible de trancher entre les chiffres de Pôle emploi et ceux de l'UNEDIC. Il y a ici un manque de transparence dans les données collectées, ce qu'a souligné la Cour des comptes fin 2018. L'UNEDIC n'accédant pas, par exemple, aux bases de données de Pôle emploi. Et au-delà de la bataille des chiffres et des tergiversations qui donnent la migraine autant qu'elle noie le poisson, elle rappelle que nous parlons là de montants et d'allocations ridiculement bas, perçus par les plus précaires d'entre les précaires. S'il y a bien quelques cas précis où le chômeur gagne plus qu'en travaillant, c'est sur une période très courte. On nous propose donc une réforme globale pour une minorité de personnes indemnisées. On est loin de ces sans-emploi qui profitent du système. Si j'ai voulu parler de cet article, c'est que la réforme en cours sur l'assurance chômage fait débat, d'autant plus que les syndicats se sont retirés des négociations. On peut noter le côté perfide de la communication ministérielle qui emploie un cas d'abus marginal pour vendre sa réforme. Cas de contrats courts, fragmentés, qui précarisent davantage et dont les travailleurs ne sont pas responsables, les employeurs ayant au fil des années plus largement recours à l'embauche en CDD. Cas au SMIC, où évidemment la somme gagnée paraît dérisoire. Et cela n'est pas sans rappeler qu'une des revendications principales des Gilets jaunes est l'augmentation des salaires. Valoriser le salaire de base plutôt que de fouetter publiquement les chômeurs, voilà une mesure incitative et nécessaire, sachant que plus d'1 million de travailleurs et travailleuses vivent sous le seuil de pauvreté. Prendre un exemple limite montre également une recherche de l'effet d'annonce, une tentative de manipulation de l'opinion publique. C'est une campagne anti-chômeur, qui alimente les préjugés. Initiée par une ministre multimillionnaire, l'une des plus riches ministres du gouvernement, et pourtant les autres ne sont pas en reste, un comble que cette attaque venant d'une personne à qui la seule suppression de l'ISF a fait économiser 62 000 € par an. Ici, on responsabilise, voire culpabilise les privés d'emploi dans la faillite du système. On individualise le problème alors que la question du travail, des conditions d'embauche et de la solidarité est systémique. Les privés d'emploi, comme les migrants ou les Roms, sont des cibles faciles pour la doxa ultra-libérale, d'autant plus vulnérables que les conditions de précarité dans lesquelles ils vivent dans la majorité des cas ne leur permettent.
Qui se sont rencontrés et qu'ils ont décidé de faire une association, donc ils ont été voir la mairie de Lens. Et on avait une salle municipale à la cité 12 de Lens. On se réunissait tous les mercredis, on faisait, c'était les groupes de parole. Mais après, les gens ils se sont dit, mais oui, mais on parle, mais qu'est-ce qu'on, ça va déboucher sur quoi? Alors après, on a su que Pascal Habitat réservait des logements aux associations. Donc on a fait la demande et on a obtenu un logement à la Tour Adler. On était là 21 ans. Alors au début, on était une association assez revendicative. Parce que les demandeurs d'emploi qui venaient au début, bon, c'est des demandeurs d'emploi qui ont retrouvé du travail, donc ils étaient encore motivés. Et on a fait pas mal de choses. On a fait une marche régionale. On a fait le mur de la différence dans la rue de Paris. On a été manifester devant la gare pour dire que les chômeurs n'ont pas de boulot. On a occupé pacifiquement Pôle emploi. Suite à ça, on a eu une ligne directe, on a eu des bons rapports. On a fait plein de trucs symboliques, quoi. Après, on s'est développé. On a fait aussi pas mal de trucs culturels, du théâtre. On a fait le théâtre de l'opprimé. Maintenant, on est beaucoup moins revendicatif parce qu'on s'adapte au public. On a un public de longue durée et bon, bah, les gens ils croient plus aux manifs ni rien du tout, quoi. Sinon, nous, on fait du suivi social. On suit aussi des personnes au RSA qui sont envoyées par le Conseil général. Donc ici, actuellement, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Parce qu'on avait plein de choses. On était un centre social parce qu'on avait des subventions. Maintenant, il nous reste encore quelque chose, mais c'est moins, ça commence à baisser. Il nous reste un atelier informatique tous les jeudis, animé par un bénévole, alors qu'avant c'était quelqu'un qui était rémunéré. Il faisait ça toute la semaine, donc il y avait un monde fou, parce que c'était dans les années 80-90, où le besoin informatique, les gens ne savaient pas, donc ils voulaient apprendre, quoi. Il nous reste une épicerie solidaire, un vestiaire, et puis... Maintenant, c'est plutôt le suivi social. Voilà. On fait un journal qui s'appelle aussi Le Chômeur Déchaîné, un petit journal. Voilà. Les gens ils peuvent venir ici, discuter autour d'une tasse de café, même si ils viennent pas pour quelque chose, rien que pour discuter. Quoi. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me parler de vous? Comment vous êtes arrivé dans l'association et votre situation au départ?
Je suis arrivé en 1988. J'étais au RMI. J'étais assez revendicatif. J'ai passé dans la télévision, dans les journaux, tout partout. Et d'ailleurs... C'est un peu ça qui m'a grillé après vis-à-vis de l'emploi, quoi. Alors, je voulais pas travailler dans l'association et ça s'est fait petit à petit, quoi. Donc, j'ai commencé par un CES, un CEC, et après, j'ai été embauché. Voilà. Alors qu'au départ, j'avais qu'un CAP de patron à bâtiment, j'avais travaillé à Français de mécanique, un peu par-ci, un peu par-là, mais je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, quoi. Donc, j'avais été faire un module d'orientation approfondie, j'avais demandé au directeur de Pôle emploi. J'étais dans l'association, mais j'ai été bénévole pendant 3 ans. Donc, ils m'ont dit, suite au test, que j'étais fait plutôt pour tout ce qui est espace vert, quoi. Journaliste, mais du journaliste, c'est pas possible. Après, tout ce qui est métier d'art, mais c'est pas possible, vous n'avez pas les diplômes. Donc, j'ai été faire les démarches à Tilloual et Mauflaine pour faire le CAP. Et entre-temps, l'association m'a embauché. Donc, j'ai laissé tomber le truc, voilà.
Et alors, ça veut dire quoi, revendiquer un droit au travail?
Eh bien, ça veut dire que nous, on s'est servi de l'article qui dit que tout être a droit à travail, des conditions équitables de travail, quoi. Et que. Un travail, oui, mais pas précaire, quoi. Hein, un vrai travail. On n'a pas le droit de rester comme ça, sans rien faire, moi, je dis dépendant de. Être au RSA, être ceci, être cela, courir par-ci pour faire des papiers, Toujours, rendre des comptes, quoi. Mais aussi, au fur et à mesure, on se rend compte que, moi personnellement, c'est mon truc personnel, je me rends compte qu'il n'y aura plus de travail pour tout le monde. Si on voudrait donner du travail pour tout le monde, ici en France, il faudrait payer tout le monde à 600 euros. Comme ça, les produits, ils seraient rentables, et les patrons embaucheraient à 600 euros. Et donc, c'est pas possible, on ne va pas vivre avec 600 euros. Donc, automatiquement, il faut trouver une solution. Quoi. Moi, je disais, il faudrait taxer les robots. Il faudrait taxer les robots et puis essayer de faire comme un salaire décent, quoi.
Vos exigences en matière d'accès au travail, au départ, elles étaient formulées à l'égard de qui? L'État, les patrons, l'industrie?
Les patrons, d'abord, on a cru que les 35 heures allaient créer des emplois, mais ça n'a pas créé autant d'emplois qu'ils l'ont dit, quoi. Alors il y en a, ils disent, ils font référence à l'Allemagne ou l'Angleterre. Il n'y a pas de chômeurs. Mais si en France on veut supprimer le chômeur, c'est simple, on fait comme en Allemagne et en Angleterre, c'est-à-dire on encourage la précarité. C'est-à-dire qu'en Allemagne et en Angleterre, ils ont 6 mois de chômage, 6 mois d'indemnisation, notamment en Angleterre. Donc au bout de 6 mois, ils prennent n'importe quoi. Et ils vont prendre un boulot à mi-temps, ils vont prendre des petits boulots, donc ils sortent du chômage. Nous en France, pour l'instant, mais avec Macron, on avait décidé de ne pas faire travailler les gens trop en précarité, de leur donner une allocation RSA. Il y a des pays, comme à l'Allemagne, ils ont une aide, mais en contrepartie, ils sont obligés de prendre le premier boulot qu'on leur donne. Ils n'ont pas le droit de refuser. Et avec la nouvelle loi de Pôle emploi, là, les nouvelles mesures, j'ai bien peur qu'on dise à un gars qui touchait autant de prendre un boulot en dessous de son salaire, quoi. C'est-à-dire que... Ou alors, un gars qui a un boulot de 15 jours ou une semaine qui refusait parce que ça n'intéressait pas... On va lui faire comprendre qu'il est obligé de le prendre. Le but, c'est de sortir du chômage, c'est pour faire baisser le chômage. Parce que les créations d'emplois, il y a des créations d'emplois, mais il y en a autant d'un côté qui disparaît, quoi.
Parce que vous m'aviez dit au téléphone que le nombre de chômeurs avait doublé en 20 ans.
Le nombre de chômeurs, oui, ils ont augmenté. Et en plus, sans compter tous les gens qui ne sont pas inscrits, et en plus, il y a des gens qui sont au RSA, qui ne sont pas obligés de s'inscrire en Pôle emploi. Il y a des gens au RSA qui ont des problèmes de santé, donc ils ne sont pas obligés de s'inscrire à Pôle emploi. Donc ceux-là, ils ne rentrent pas dans les statistiques. Il y a un truc, les contrats aidés, on pouvait critiquer, mais nous, à l'association, avant d'embaucher les personnes, on les prenait en contrat aidé, et après on les embauchait. Les contrats aidés, il aurait fallu les laisser, mais vérifier telle ou telle mairie, si on en profite, on arrête les contrats aidés.
Et vous avez eu le temps de regarder un peu la nouvelle loi de l'assurance chômage ?
C'est-à-dire que la personne, si elle ne vient pas à un rendez-vous, elle peut être radiée, quoi. Alors qu'avant, des fois on téléphonait, ça s'arrangeait, quoi, plus ou moins, quoi. Après, je pense que c'est suivant les directeurs d'agence. Par exemple, à Lens, ils ont toujours été plus cool. Il y a des régions... où le directeur d'agence aurait dit pour rien. Ça dépend aussi de la politique du directeur d'agence. Je sais que nous, on faisait partie du MNCP, il y a des coins, ils radiaient pour rien. Et ici, nous, on prend le téléphone, on explique la situation. Généralement, s'il y a une bonne foi, il radie. Je me souviens, j'avais téléphoné pour un gars. Il avait été radié parce que, il y a 2 ans de ça, il avait arrivé en retard à son rendez-vous. Ça faisait 2 fois. La première fois, c'était un peu de sa faute, mais la deuxième, c'était pas de sa faute. Le bus était en retard, et puis, il y avait des bouchons, il y avait des grèves, il était en retard. Donc, il est arrivé, ils l'ont radié, j'ai téléphoné, à la MPE de Nabomont, ils l'ont remis, quoi.
Tout à l'heure, on demandait qu'est-ce qu'étaient les revendications vis-à-vis du droit au travail, ou qu'est-ce que c'est le fait de revendiquer un droit au travail. J'ai l'impression que la principale revendication aussi, c'est de pouvoir être visible et d'avoir... droit à la parole.
Oui, c'est exister, parce que moi, quand j'étais demandeur d'emploi, je souffrais parce que j'étais rejeté, parce que forcément, dans les familles, quand j'allais dans ma famille, à chaque fois on me posait, est-ce que tu as trouvé un boulot ? Non. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches pas, ceci, cela. Donc j'allais même plus dans ma famille, quoi. Et en plus, j'avais plus de copains, puisque les copains, ils avaient de l'argent, ils sortaient, moi je pouvais pas sortir. Quand on est demandeur d'emploi, on peut s'affirmer des fois, mais des fois on n'ose pas s'affirmer. Et moi, je déprimais un peu, et qu'est-ce qui m'a fait rebondir, c'est l'association droit au travail, quand j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « il faut te remuer, il ne faut pas te laisser faire, il faut revendiquer, faut... » C'est là que je me suis réveillé, quoi. Alors que j'étais la même personne, j'ai été considéré et respecté même par les élus, parce que je l'ouvrais. Avant, j'étais un petit peu timide, un peu truc, je demandais quelque chose, des fois on m'envoyait promener, je repartais tête baissée, mais après quand je suis passé à l'association... c'était tête haute et je leur répondais et puis je leur disais, tout en étant poli, leur carte vérité, quoi. Donc c'est ne pas s'abaisser parce que la personne en face, souvent, le fait que c'est un demandeur d'emploi est considéré comme un moins que rien. Et si elle voit que le demandeur d'emploi, il ne se laisse pas faire, le niveau, il est égal à égal, on traite d'égal à égal. Eux, ils ont tendance à nous abaisser et nous, on a tendance à s'abaisser. Parce qu'on se dit, cette personne-là, c'est quelqu'un d'important, nous, on n'est pas grand-chose, on ne travaille pas. À force de ne pas travailler, on s'abaisse soi-même. Et c'est ça le problème, quoi. En étant à l'association, on m'a incité à faire du théâtre, on m'a incité à revendiquer. Donc c'est ça qui m'a élevé. Malgré que j'avais pas de boulot, j'étais plus la même personne. J'étais quelqu'un, parce que je me laissais plus faire. Voilà.
Un autre problème aussi, c'est la culpabilité qu'on fait ressentir aux demandeurs d'emploi. Il y a beaucoup d'exemples récents avec des dirigeants politiques, mais plus globalement dans la société, on a l'impression que les personnes qui n'ont pas de travail, ça serait toujours de leur faute.
Oui, moi je me souviens qu'une fois dans une réunion municipale, un adjoint au maire qui disait qu'il y a des demandeurs d'emploi, ils ne cherchent pas de travail, ils ne bougent pas, tout ça. Et je me souviens que j'ai pris la parole et j'ai dit, oui mais monsieur, moi je connais des gens qui travaillent, c'est des fainéants, parce que dans l'entreprise, ils s'arrangent toujours d'être bien que le chef, et s'ils sont bien que le chef ne leur donne pas le boulot qu'ils devraient avoir, ils le donnent aux autres. Donc il y a des fainéants tout partout. Et là, qu'est-ce que j'avais pas dit? Ben, il s'est mis en colère, parce que j'ai dit non, il y a des fainéants tout partout. Chez les fonctionnaires, il y a ceux qui font bien leur boulot, et il y a ceux qui en font le moins possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut arrêter de critiquer le demandeur d'emploi, parce que moi je dis, déjà quand on travaille, on a un mois de congé, quand on reprend le boulot, on a déjà du mal. Alors si on est 2-3 ans au chômage, eh ben, on perd confiance. À la limite, on peut trouver une annonce et puis on peut dire c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Parce qu'on a perdu confiance. Et automatiquement, quand on va se présenter pour le boulot, le patron il va voir qu'on n'a pas confiance et il va pas nous prendre. C'est un cercle vicieux. Je vais pas y aller parce que peut-être je vais plus me rappeler de mon boulot, ça fait 3 ans que j'ai pas exercé, je vais peut-être plus savoir le faire, ceci, cela. Donc on dit je vais pas y aller, on perd confiance. Et c'est pour ça, avant, au début, à l'association, avec le conseil général, on travaillait sur la confiance, sur les ateliers, sur le théâtre, pour reprendre confiance. Comment voulez-vous qu'une personne qui se vend devant un patron, s'il a 3 ans de chômage, automatiquement, c'est pas comme quelqu'un qui sort de l'école où il y a des choses à dire. Donc c'est on perd confiance et automatiquement, en face, les patrons, c'est pas les assistantes sociales. Comme un patron, il m'a répondu quand je cherchais du travail il y a 30 ans, j'étais pas ici. Vous avez un moyen de transport? J'habitais Lens. Ben, j'ai une mobylette. Oui, mais... la mobylette, s'il neige, il fait du verglas, tout ça. Je peux venir à pied, je peux faire ceci, je peux faire cela. Oh, écoutez, arrêtez. Hein. Moi, je suis pas une assistante sociale. Je suis un patron. Je comprends aussi pas mal de demandes d'emploi qui mentent sur leur CV, qui disent qu'ils ont une voiture, qu'ils en ont pas, ou même qui trichent parce qu'à force de pas trouver, qui trichent quoi.
Voilà. C'était un salarié de l'association Droit au Travail qui se situe à Lens et bon, ça permet de rappeler aussi certaines des choses qu'on a tendance à oublier vis-à-vis des privés d'emploi, vis-à-vis de la question psychologique et de la question sociale et aussi de la nécessaire solidarité qui doit se faire entre les personnes privées d'emploi et même avec les travailleurs et les travailleuses pour défendre leurs droits, droits justement menacés par cette réforme de l'assurance chômage. On va terminer cette émission en musique, Lucien.
Allez, c'est parti.
Voilà, c'est presque blasphème hein, dans la discographie militante parce qu'on est dans le R&B presque gnangnan. Mais moi j'aime bien, en plus c'est un producteur américain de Los Angeles qui est très connu, qui œuvre en sous-main pour beaucoup d'artistes hip-hop de grande renommée. Mais en revanche, toutes ses mixtapes à lui sont également libres de droit et ça c'est quand même sacrément cool. Voilà, c'est Knowledge, mais ça s'écrit avec un X à la place du O et le titre c'est Dangerous. Like this, I never really spend no time like this.
Second time at the crib, knowing I might not hit. You said what I look like my bitch. Yeah. Looking in your eyes, shit is dangerous. Pussy wet, I call it angel dust. I put so many diamond chains on you, they get tangled up. I never felt like this is strange as fuck. Got no ex, nigga, color, but it can't do much. Cause you with the kid now, LMA moved up. And all you gotta do is call and watch that ring pull up. Under the stars, since they throwing all the shade on us. Back. You pull up, I've been contagious. Look in your eyes, it's dangerous. Grateful I had all the pages. I know you're going through some changes. You taking pictures, know your angles. Ooh, no, we ain't perfect, but we down close. Ooh, you give me something I can pay for. That's what it's like, loving you. You feel a vibe, I'm deep inside, yeah. You fucking me, I let you ride, yeah. At first you curve me, I let you slide, yeah. Your hips so curvy, you let me fly, yeah. Ooh. And it was over once I flipped you over. Relation go over, come through just like Beyonce over. This the Hermes money, this ain't no fashion over. You said your ass had you depressed and I'm just glad that's over. So now you rocking with a real one. And when I'm in it, you be maxing on a million. And when I hit it back to back, you make me still come. I know them bitches hating on you, we gon' kill them. That's fact. You feel a vibe, it's contagious. Look in your eyes, it's dangerous. Grateful I had all the pages. I know you're going to change. You taking bitches, know your pain.
On écourte un petit peu cette musique pour faire la conclusion de l'émission. Lucien, je te laisse dire au revoir. Je m'en occupe.
Oui, on est très content d'avoir passé cette heure avec vous, hein, chères auditrices et chers auditeurs. Et ben, j'ai envie de vous dire tout simplement bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine, hein, 18h, microrebelle.fr. Bye bye.
Bye bye. On termine avec Milo Landscaping.
So vast, so big, I can make you a whole album full of stories, you know what I'm saying? The challenge for me is to make it, you know, close to what I've seen or my experiences and still rhyme.
What's a selfie? That's not me, that's my Chula Chaki. The path is littered with many a useless tchotchke. I'm Muriel crying Eustace in that building lobby. Oh, and my courage is such a cowardly dog. Glasses look like jam jars. Rap like if Dr. Parnassus was an Ansar. Ancestor with a capital A. You would sign a contract to earn a capital wage while we tenured in this deplorable reality. It's a black V5 that earns my salary. Impeccable memory. I'm Salazar Slytherin by the salad bar, giggling cause I seen that. Cause I seen that. Microphone on my shoulder like a bazooka that shoots a tooth. My nigga, I'm falling apart. It's not so much the screws is loose. It don't feel that.